Coucou les addicts, merci de me rejoindre sur ma chaîne. Bon retour à vous. Je suis Aurélie Outlander Addict depuis 2018. Nous sommes ensemble pour parler de l'épisode 5 de la saison 7, Singapour. Je détaillerai tous les éléments de l'épisode qui m'ont semblé intéressants. Je vous livrerai quelques anecdotes de tournage et des infos données par les acteurs ou les auteurs ou la production. Lorsque je prépare ces décryptages, je me documente beaucoup, je fouille le net à la recherche de toutes les ressources ou les infos qui sont susceptibles de vous intéresser et je les synthétise ici. Ce sera aussi l'occasion de clarifier certains points et de développer quelques intrigues. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire encore une fois sur cet épisode. Évidemment, je vous parlerai de mon top et de mon flop. Nous entendrons aussi des commentaires vocaux des addicts officiels. Alors, c'est quoi un addict officiel ? On est d'accord que nous sommes tous addicts, c'est bien pour ça que nous sommes ici. Mais ceux que j'appelle les addicts officiels, ce sont les personnes qui m'ont rejointe sur ma communauté Patreon, qui est une plateforme de mécénat participatif et collaboratif. En gros, les membres de cette communauté contribuent par le biais de dons mensuels au financement de la création de mes contenus. En contrepartie, ils accèdent à une foule d'avantages exclusifs, dont notamment la possibilité d'intervenir dans mes décryptages. Lors de la mise en ligne de la vidéo, le chat est ouvert, emparez-vous-en. Et je remercie les addicts qui sont présents en live, grand merci à vous. Le chat est également visible lorsque vous visionnez cette vidéo après coup, dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, que sais-je. Et il suffit pour cela d'activer l'option « Rediffusion du chat en direct » qui se situe en dessous ou juste à côté de la vidéo. On commence avec mes impressions générales. C'est une fois de plus un très bel épisode. On suit plusieurs histoires en même temps, j'en ai dénombré au moins 5. Claire médecin, Jamie, stratège incompris, William et les Hunter, les Mackenzie et petit Yann. Alors ils ne sont pas véritablement reliés, mais l'épisode ne m'a pas pour autant semblé décousu. Je pense que c'est lié au soin qui est porté aux transitions ou aux parallèles qui sont faits entre les histoires. Brianna est confrontée à ses collègues machistes, tout comme Claire avec le médecin de l'armée. Yann doit retourner au camp indien où se trouve Emily, mais passe d'abord par Claire pour avoir cette conversation sur ses capacités à donner un enfant un jour à une femme. Jamie ne parvient pas à faire entendre sa voix et passe aussi par Claire pour s'en plaindre et envisager un moyen de régler les choses. Seule l'histoire de William et des Hunter semble légèrement déconnectée, avant, néanmoins, que Claire ne fasse la connaissance de Denzel. Et je me rends compte que tout passe par Claire. C'est elle qui fait finalement le lien entre toutes les histoires. Alors parlons de ce fameux titre Singapour. Eh bien, c'est encore à elle qu'on le doit. Je me souviens de nos conversations et des échanges que j'ai lus sur les réseaux au sujet de ce titre, qui nous paraissait à tous bien énigmatique. À l'inverse d'autres titres d'épisodes, il est bien loin de refléter une thématique ou une intrigue globale. Pour autant, il n'est pas non plus complètement à côté. Matt Roberts, le showrunner, explique dans son podcast que ce titre a été beaucoup discuté dans le salon des scénaristes. Leur volonté est toujours de faire en sorte que le titre soit en lien avec l'épisode, mais pas non plus trop explicite. Là, il n'était pas explicite du tout. Alors, je vous rappelle que Singapour fait référence à la bataille de Singapour que Claire cite en exemple pour expliquer à Jamie que lors de la Seconde Guerre mondiale, Singapour est tombé aux mains des adversaires de l'Angleterre parce que l'armée britannique avait axé tout son système de défense par rapport à une attaque par la mer. Et finalement, les Anglais se sont fait attaquer par les terres. C'est aussi la stratégie militaire, ou en tout cas les discussions d'état-major, qui sont mises en avant dans la title card, des chèvres qui broutent sur un relief escarpé, faisant référence à la remarque de Jamie « Là où les chèvres peuvent aller, des hommes le peuvent aussi. » Et comme cela arrive parfois, ce ne sont pas des images qui ont été filmées par la production d'Outlander. Ces images font partie d'un stock d'images ou de vidéos qui sont à disposition et elles ont été intégrées en post-production. Et puisqu'on parle d'images, c'est l'occasion de dire un mot sur les décors et les paysages. D'abord, le fort de Ticonderoga n'est pas le vrai fort. Bien qu'il existe toujours et qu'il se visite, Brianna y avait d'ailleurs été emmenée par Franck pendant sa jeunesse. C'est un fort qui avait été construit à l'époque par des Français pendant la guerre contre les Anglais, dans la guerre qui s'appelle en anglais « The French Indian War », car les Français et les Indiens étaient alliés contre les Anglais. Et c'était entre 1756 et 1763, donc on va dire, une vingtaine d'années à peu près avant les faits qui nous sont relatés avec Claire et Jamie. Et pendant la guerre d'indépendance, il n'y a jamais vraiment eu d'affrontement à Fort Ticonderoga. Et donc, je le disais, la production n'a pas été tournée aux États-Unis, mais pour figurer ce fort, la production a eu l'autorisation de filmer au fort de Duncarron, qui se situe en Écosse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce fort est complètement fait de bois. Et donc, les pierres que l'on voit à l'écran ont été ajoutées par effets spéciaux, tout comme d'ailleurs les branches de l'étoile, qui n'existent pas. Hein. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est franchement du plus bel effet. Alors, autre élément de décor époustouflant, c'est le barrage de la centrale. Et ça, c'est un vrai décor. Il existe vraiment tel que nous l'avons découvert dans la série, et j'en veux pour preuve une vidéo des coulisses que Meryl Davis avait mis sur ses réseaux sociaux au moment de la diffusion de l'épisode. Et donc, il se situe en plein cœur des verts paysages et des lorques des Highlands. Franchement, juste magnifique. Et cette musique qui accompagne l'arrivée de Brianna à cette centrale est une musique de génie. Elle colle à la scène, elle colle aux Highlands, elle nous trotte dans la tête et quand on l'entend, hors contexte, on l'associe directement à cette scène. En tout cas, je parle pour moi, c'est vraiment ce que ça me fait. Et alors, une fois arrivé au pied du barrage, on découvre un tout nouveau personnage du casting. Vous voyez comment je fais mes transitions, là? Et donc, Rob Cameron est interprété par Chris Fulton. C'est un acteur écossais qui est originaire de la même région que Sam Yuan, Dumfries et Galloway. Il a joué quelques rôles dans des séries, et notamment un rôle dans la série The Witcher en saison 2, une série dans laquelle joue également Graham McTavish hein, dans la saison 3. Et puis, il a joué aussi le rôle de Sir Philip Crane dans la saison 1 de Bridgerton. Et je peux vous dire que si la série Bridgerton suit les livres de Julia Quinn, dont elle est inspirée, nous devrions revoir l'acteur reprendre son rôle et être même sur le devant de la scène. Ceux qui ont lu les livres de toute la saga de Julia Quinn savent probablement de quoi je parle. Quoi qu'il en soit, il incarne un personnage qu'on a plutôt envie de mépriser, malgré son joli petit minois. Dans l'épisode, il nous apparaît comme sournois, misogyne et peu respectueux. À suivre dans les épisodes prochains. Alors, d'habitude, je le dis assez rapidement, mais je vous en parle maintenant. La scénariste de l'épisode, c'est Taylor Mallory, et c'est une toute nouvelle scénariste. C'est la première fois qu'elle écrit pour Outlander, et elle a notamment collaboré dans la série Shadowhunters, qui est visible en France sur Netflix et qui a plutôt bien marché. Alors, c'est de la fantasy, hein, donc je ne sais pas si vous la connaissez, moi, je ne l'ai pas vue. Mais en fait, j'ai plutôt envie de parler de la réalisatrice Tracy Dyer. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce son nom. Et petite anecdote, c'est une femme Mohawk. Et alors, pour une série qui s'intéresse de près à cette tribu, c'est quand même plutôt cool, vous ne trouvez pas ? Mais j'ai en fait surtout envie de parler de son travail, de ses magnifiques mouvements de caméra, et surtout de magnifiques mises en place de décors dans les conversations. Et je voudrais prendre pour exemple la scène où Claire est avec Walter Woodcock et qu'il parle de sa femme. Donc c'est une des premières scènes en duo entre Claire et Walter. Enfin, c'est la première scène où ils ne sont que tous les deux. Donc ils sont dans la tente, il y a une magnifique mise en lumière des personnages, une belle harmonie entre les tons chauds des vêtements, des éléments de décor, il y a beaucoup de bois qui ressort, en tout cas dans cette scène, la couleur de peau de Walter, et tout cela fait un beau contraste avec la toile de la tente qui se situe plutôt dans des tons blanc crème. Et la mise en lumière, pour moi, contribue à l'émotion de la scène entre tristesse et romantisme. Et puis, il y a aussi cette image dans le viseur de la longue vue que l'on voit deux fois, hein, une première fois quand Jamie essaye de faire sa démonstration de la vulnérabilité du fort, et puis une autre fois au moment de la mise en place des troupes britanniques. Et c'est cette image de nuit que je trouve absolument fabuleuse, d'un esthétisme dingue. Je l'aime beaucoup, et visiblement elle a plu à la production puisqu'elle figure dans le générique, alors certes dans une forme moins stylisée. Et ça me donne l'occasion de vous parler du générique, dont certains plans ont été modifiés, vous l'aurez sans doute remarqué. La barque dans laquelle se trouvaient Brianna, Roger, Claire et Jamie, et puis les enfants à Ocracoke, a été remplacée par des mains d'adultes qui tiennent un avion, hein, un jouet en fait, en avion. Il y a aussi le remplissage des seaux d'eau pour éteindre l'incendie du Ridge qui a été remplacé par la voiture rouge des Mackenzie qui monte vers les Librock. Roger glisse une pierre dans la veste de Jam et ça a été remplacé par Roger et Brianna enlacés dans la cour de la Librock devant leur caravane. Et puis il y avait aussi un plan de Brianna sur la plage d'Edenton qui a été remplacé par Brianna qui sort du tunnel et qui a eu cette vue magnifique sur le loch. Hein. Encore une mention que j'aurais pu faire au merveilleux paysage. Alors voilà pour les généralités. Allons maintenant un peu plus en profondeur dans les scènes et les intrigues de l'épisode. Mais je vais d'abord commencer par vous parler de mon flop et de mon top. Et mon flop, c'est Brianna qui ne parle pas de l'expérience bizarre qu'elle a vécue dans le tunnel à Roger. Ça passe au second plan après son bizutage par ses collègues masculins. Et là, je suis pas d'accord. Je trouve ça vraiment étrange qu'elle ne parle pas du tout de cette histoire de lumière bleue, de bourdonnement. Roger est tout à fait au courant pour le voyage dans le temps, c'est son mari, et je trouve que c'est important. Non ? À suivre cette histoire. Mais vraiment, même pas une petite mention, rien du tout. Colle pas. Mon deuxième flop, parce que j'en ai deux, c'est l'inspection beaucoup trop rapide de Roger pour vérifier qu'il n'y a pas le nuclavi qui traîne autour de la maison. Sa fille est en panique totale, elle dit avoir vu quelqu'un, et la Librock est tout de même une bâtisse assez isolée de tout, hein. Et puis Roger sort comme ça, sans sa batte de baseball, sans torche, sans casserole, sans bâton, enfin sans rien quoi. Et il sort sur le palier, descend quelques marches, jette un petit coup d'œil rapide. La caravane est allumée, elle pourrait tout à fait servir de cachette, il n'y rentre même pas. Alors j'ai envie de vous dire, monsieur Mackenzie, que tout ça est quand même un peu light. Ou alors peut-être qu'il pense que sa fille se fait des films. Mais c'est quand même lui-même qui dit qu'il y a peut-être des rôdeurs car il a trouvé des emballages. Donc, monsieur Mackenzie, Roger, pas logique. Parlons plutôt de mon top. et puis, c'est aussi les Mackenzie, en fait. Mon top, c'est surtout l'émotion de Brianna quand elle pense à ses parents. Et en fait, je réunis les deux scènes de début et de fin d'épisode. Ces deux scènes sont en miroir et elles se répondent l'une à l'autre. Au début de l'épisode, Brianna ne veut pas entrer dans le cimetière, elle ne peut pas s'imaginer ses parents morts. Et on peut tout à fait s'identifier à ça. Hein. Et c'est pour ça, je pense, que cette scène me touche. Et vous touche aussi, je crois. De retour à la maison, Brianna cherche une connexion avec ses parents et c'est tout naturellement qu'on la retrouve avec le coffret de lettres posé devant elle. Elle l'avait dit, hein, tant qu'il y aura les lettres, ses parents seront vivants pour elle. Et c'est aussi mon top car on est témoin de la belle relation de couple entre Roger et Brianna. On a déjà suffisamment attendu, je crois que c'est ce que dit Roger. Franchement, je pense que Roger n'aurait rien pu dire de mieux que ça, que précisément ce moment, enfin cette phrase-là à ce moment précis. Il est étonnant que Brie ne souhaite pas ouvrir les livres d'histoire hein, pour en savoir plus sur la bataille de Ticonderoga. En effet, je trouve que la présence des lettres, des nombreuses lettres, atteste à elle seule que l'histoire de Claire et Jamie ne s'est pas arrêtée à Ticonderoga. Bon, bref, c'est une aparté. Et on retourne au cimetière avec Brianna à la fin de l'épisode et la boucle est bouclée. Scénaristiquement, c'est impeccable. Cette fois, elle est face au cairn de Jamie, elle lui parle, elle sait que son père serait fier d'elle. Et les auteurs maintiennent la connexion émotionnelle entre Brie et Jamie comme ils l'avaient fait en début de saison 3 alors que Claire et Jamie étaient séparés. Un petit oiseau, vous vous en souvenez, hein, un petit lapin. Et que dire des paroles de Brianna qui se prolongent alors que les images ont disparu et que le générique de fin démarre. C'est très puissant. Moi, ça me touche vraiment beaucoup parce qu'on a le sentiment d'une voix, la voix de Brianna, qui va toucher l'au-delà. Toucher ce qu'il y a derrière, ailleurs. Exceptionnel. Vraiment, moi, ça me touche vraiment beaucoup. Et j'en profite pour vous donner une anecdote que j'ai aimé entendre de la part de Matt Roberts. La scène du début de l'épisode n'était pas du tout scénarisée de la même manière. Brianna devait à l'origine entrer dans le cimetière auprès des enfants Et donc, c'est Matt Roberts, le showrunner, qui a souhaité que cette scène soit tournée différemment, que Brianna n'y entre pas, pour que ressente d'autant mieux l'état émotionnel de Brie, et puis que la scène de fin soit encore plus impactante. Et qu'il y ait aussi une sorte d'évolution, d'élan, vous voyez. On a souvent dit que Ron Moore était un génie, mais très sincèrement, je crois que Matt Roberts, alors soit il a bien appris avec Ron Moore, ou soit il est lui aussi vraiment très très doué, et la qualité de cette saison 7 montre qu'il a vraiment trouvé un bon rythme de croisière. Je vais maintenant développer mes thèmes. Et je vais d'abord vous parler de ces orgueilleux et ces misogynes qui pensent tout savoir mieux que tout le monde. En vrai, ça c'est mon vrai flop, mon coup de gueule contre ces personnages. Il y a le général, alors Fermoy, Fermoy, je pense en français, donc cet officier français qui tient tête à Jamie, il y a le lieutenant Stacto qui pense être chirurgien mais qui ne l'est pas, la maîtresse du petit Jem qui dit que le gaélique ne doit pas être parlé, Rob Cameron qui s'est cru malin en organisant le bizutage de Brianna. Toutes ces personnes font que cet épisode est rempli de frustration pour nos personnages principaux. Mais je dirais que nos héros gardent leur calme et agissent avec sagesse, et ça, ce sera en fait mon deuxième thème. Parlons d'abord du général Fermoy. Il s'agit d'un soldat volontaire français. Alors, il a vraiment existé. Il était originaire des Antilles et a été promu au rang d'officier dans l'armée continentale. Et son passage dans l'armée est surtout marqué du sceau de la disgrâce. Son plus grand acte est d'avoir mis en danger la fuite de Ticonderoga en incendiant ses quartiers généraux en pleine nuit, donc la nuit où l'armée devait quitter le fort. Il a démissionné de l'armée en 1778 après s'être vu refuser une promotion. Comment dire que tout cela ne m'étonne pas vraiment ? La fiction de Diana et des auteurs s'inspire souvent de la réalité. Parce qu'on se dit quand même qu'il ne fait pas un très très bon meneur d'hommes. Un général qui ne sait pas écouter ses colonels et qui fait la sourde oreille aux évidences ne paraît pas être qualifié à diriger un régiment. Alors, dommage que ce soit un Français. Et là, c'est un peu mon cocorico parce que ça ne redore pas franchement notre image dans la série. Après le roi Louis XV, le comte Saint-Germain, le trésorier du roi, la frivole Louise en saison 2. Bref. Mais poursuivons, parce que si on essaye de considérer un peu l'art de la guerre, logiquement, les expériences passées devraient conduire les meneurs, les dirigeants, à envisager de trouver leurs ennemis justement à l'endroit où ils sont le moins attendus, là où il y a le moins de chances qu'ils apparaissent. Et on se rend compte ici que la fierté a de beaux jours devant elle. Les collègues masculins apprécient peu d'être dirigés par une femme. Et là, on l'a pour deux de nos héroïnes, hein, Brianna et Claire. Ça rigole un peu sous le manteau, il y a de la défiance dans les regards, et là, on est au XXe siècle avec Brianna. Et puis, ce Madame l'inspecteur n'avait franchement rien d'amical pour accueillir Brianna au barrage. Brie se retrouve enfermée dans le tunnel sous le barrage, avec une lampe de poche qui ne fonctionne pas. Mais je vais reparler en détail de cette scène dans le tunnel un peu plus tard. Revenons-en aux hommes. Brianna au pub n'est pas non plus accueillie sous les hurrahs hein, lorsqu'elle arrive. Il y a même un homme qui quitte la table, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Rob Cameron l'appelle Poulette, se moque de sa sortie express du tunnel hein, en essayant de recueillir les rires de ses collègues. Hein, il fait de l'humour d'homme, j'ai envie de dire. Parce que, effectivement, tous les hommes ricanent bêtement dans leurs moustaches. Rob, elle, le patron du bar, pour qu'il serve un verre à Brianna. Hein. Donc, on pourrait se dire que c'est sympa, mais sauf qu'il dit « Venez servir un verre à ma collègue ». Sauf qu'en fait, Brianna, c'est pas sa collègue, c'est sa boss. Donc, mauvais point, Rob Cameron. Et de son côté, Claire affronte le lieutenant Stacto. Lui, je le classerais dans la catégorie de ceux qui pensent que puisqu'ils ont le titre, ils ont les compétences qui vont avec. C'est incompétent et doublé de misogynie, ce qui n'arrange pas le tableau. Mais jusque-là, Claire se contente de lever les yeux au ciel et de gonfler fort les joues pour bien signifier que cet homme la gonfle. Réduite à s'occuper des nerfs de Madame Raven. Et au chapitre des frustrations, on peut ajouter Roger le petit Jem, En rentrant de l'école, Jem se cache dans le pigeonnier en contrebas de la maison de la Libroc. Et donc, vous l'avez reconnu, hein, c'est le pigeonnier où Fergus avait caché le pistolet dans la saison 3. Jem a très peur de se faire gronder parce qu'il dit à Roger « j'ai eu des soucis à l'école ». Et en fait, il s'est fait tirer l'oreille, il a eu des coups de ceinture sur le doigt parce qu'il a parlé le gaélique. Et puis aussi qu'il a insulté son institutrice. Mais ça a commencé par des insultes liées à sa religion, hein, sale papiste. Probablement dans une classe et une communauté où la majorité des enfants sont presbytériens, certainement. Hein. Mais à cela, Jamie, normalement, sait quoi répondre. Le problème, c'est qu'il a parlé gaélique et que ça n'a pas plu à sa maîtresse. Puis, il a juré en gaélique avec un juron emprunté à Jamie. Et là, on aimerait vraiment savoir ce qu'il a dit. Mais là, comme on sait qu'il y a des épisodes qui suivent, on aura la réponse. Et j'aime bien cette scène, je la trouve vraiment bien... Enfin, je la trouve vraiment sympa. Car les auteurs y ont injecté une part d'histoire. Alors, je dis les auteurs, en vrai, c'est pas les auteurs de la série, hein, c'est Diana. Et rendons à Diana ce qui est à Diana, parce que c'est dans le livre. Dans les années 80, le gaélique n'avait pas du tout le vent en poupe. Les enfants dans les écoles étaient encouragés à apprendre le français. Enfin, l'anglais, bien sûr, d'abord, et le français. La langue gaélique était considérée comme un dialecte de la campagne. Et donc, pour des jeunes qui avaient voilà, des volontés d'avenir et de s'en sortir, il était mieux de le laisser tomber. Enfin, gaélique, voilà, en contradiction avec la modernité. Mais c'est une difficulté que l'on a vue et qu'on voit peut-être encore, même encore maintenant, dans plusieurs pays développés, hein, en France aussi. Et c'est finalement le 21e siècle qui donnera raison à Roger et à Jem, que ce n'est pas mal de parler le gaélique, ni aucune langue régionale d'ailleurs non plus. Hein. J'en veux pour preuve, en France, voilà le regain d'intérêt pour toutes les langues régionales. La loi de 2005 sur la langue gaélique en Écosse a créé un organisme public non ministériel chargé de garantir le statut du gaélique en tant que langue officielle, imposant un respect égal à la langue anglaise, ayant pour objectif d'augmenter le nombre de locuteurs et l'utilisation de la langue. Donc ça, c'est 2005, donc il n'y a pas tout à fait 20 ans. Il a fallu du temps, mais on y est. Alors, quoi qu'il en soit, Roger a promis à Jem de régler ça. Il n'est pas du tout fâché contre son fils. En revanche, on sent qu'il est très contrarié par ce qui vient de se passer. Donc, j'ai envie de dire à suivre trois petits points. Et j'aime beaucoup le fait que Jem soit passé du statut de « je vais me faire gronder » à « mon père me soutient, il est de mon côté ». Ça, c'est vraiment chouette. Alors, voilà l'ensemble des frustrations que j'ai relevées dans l'épisode. Frustrations à cause de personnes persuadées de détenir la vérité, des misogynes ou des vaniteuses. Et face à cela, nos héros se taisent ou font profil bas. J'ai intitulé ce thème « La sagesse ou la miséricorde de ceux qui leur font face ». En fait, nos personnages prennent de la hauteur. Parfois, en effet, mieux vaut laisser ses ennemis ou ses adversaires se planter tout seul. Ça leur donne une bonne leçon. Et si en plus on reste humble dans sa victoire et qu'on ne claironne pas, je crois que l'impact est encore plus puissant. Et en effet, il n'y a pas de jubilation de la part de nos personnages. Hein. Pour certains, c'est même étonnant. Je pense notamment à Claire. On est plutôt habitué à son franc-parler en toutes circonstances. Et force est de constater qu'elle a mis de l'eau dans son vin face au lieutenant Stacto. C'est la voix off de Claire qui nous renseigne sur cette situation et sur le contexte dans lequel elle évolue. C'est la lecture de la lettre hein, en début d'épisode. Et là, je reviens un peu sur les faits historiques. Chaque régiment de l'armée que ce soit britannique ou continental, voyager ou en tout cas cheminer avec un médecin, avec son médecin, souvent un officier. Claire n'a évidemment pas le statut légitime de médecin. Elle fait partie des femmes suiveuses, des femmes de soldats qui ont des compétences particulières et se rendent utiles sur le camp. Claire est connue comme guérisseuse, donc sa place est effectivement dans l'attente médicale. Quoi qu'il en soit, lorsque Denzel et le lieutenant Stacto débattent sur l'amputation de Walter Woodcock et que le ton monte, Claire est interpellée, hein, elle s'approche. Et ça, c'est une scène très solide aussi, compte tenu du nombre de personnages en présence. Il y a 4 personnages, c'est beaucoup hein, pour gérer des interactions. Et on perçoit vraiment très très bien les positions des uns et des autres. Et moi, personnellement, je plains vraiment le pauvre Walter. Il a des médecins autour de lui qui se disputent pour savoir s'il faut amputer en dessous ou au-dessus du genou. s'il faut ou non passer les instruments à l'eau bouillante, et le pauvre ne doit avoir qu'une envie, qu'ils en finissent. Alors si la misogynie et l'orgueil du lieutenant ne sont pas sujets à débat, la compréhension et la connexion immédiate entre Denzel et Claire est également une évidence. Claire a enfin un allié dans son domaine. Elle n'en avait pas vraiment trouvé dans ce siècle. Alors si on met de côté Yi Tian-cho, Willoughby de la saison 3, bien sûr. L'intérêt pour moi de l'arrivée d'un personnage comme Denzel est qu'on va pouvoir s'écarter un peu de la relation de Claire et Jamie, qui a déjà été beaucoup explorée, exploitée dans plusieurs de ses nuances. Et on va enfin pouvoir observer Claire à travers le prisme de Denzel. Il a tout de suite compris de quoi elle parlait, et Claire a enfin quelqu'un qui la comprend et qui est sur la même longueur d'onde pour les questions médicales. Ça fait du bien pour elle. Je suis contente. Et en plus d'un allié, Claire gagne aussi le respect de Walter, car elle a l'empathie qui doit, selon moi, caractériser tout soignant. Grâce à la relation qu'elle noue avec ce personnage, on en apprend un peu plus sur sa vie. Et croyez-moi, si les auteurs de la série s'attardent ainsi sur un personnage random au hasard, justement, ce n'est pas un hasard. Alors, facile à dire maintenant que nous avons eu tous les épisodes de la première partie de saison 7, mais c'est déjà un sujet que nous avions évoqué dans notre visio post-épisode sur Patreon. On sentait bien qu'on allait revoir ce personnage, même si à la fin de l'épisode, Claire est contrainte de l'abandonner alors que tout le monde est en train de fuir le fort. D'ailleurs, ça interroge autant que ça fend le cœur. Pourquoi Claire ne tente-t-elle pas d'emmener Walter ? La Claire d'il y a quelques années, je pense, aurait été têtue et aurait tout tenté pour emmener cet homme avec elle. Mais là, je pense qu'elle le fait avec beaucoup de sagesse parce qu'elle sait que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour la survie de cet homme. Dit autrement, elle sait qu'il est beaucoup plus risqué de le bouger que d'espérer qu'il sera bien traité par les Anglais. « The British will have to show you mercy », les Anglais devront être cléments. Et ce mot en anglais « mercy », qui signifie « miséricorde hein, » quand c'est un nom commun, mais les lecteurs et ceux qui ont écouté en anglais n'auront peut-être pas manqué de soulever le petit rire nerveux, enfin la petite réaction de Walter. C'est un probable clin d'œil au lecteur. Si vous l'avez entendu, vous aussi, voilà, vous n'êtes pas sans savoir que... Allez, je vais rien révéler qui ne soit pas déjà connu, mais je vous suggère, si vous voulez en savoir plus, de regarder les annonces de casting de la saison 7. Voilà. Comme ça, pas de spoiler. J'ai une dernière question par rapport à cette scène, le laudanum. Est-ce que Claire fournit à Walter de quoi mettre fin à ses jours si besoin ? Parce que bon, évidemment, le laudanum, c'est un antidouleur, probablement, un puissant. Mais est-ce qu'il y a un message caché derrière le « n'en abusez pas » ? Moi, j'ai bien l'impression que oui. Et en même temps, les paroles de Claire sont pleines d'espoir et elle dit à Walter que la guerre se finira un jour et qu'il pourra retrouver sa femme. Et alors, me voilà perdue. De votre côté, je vous ai interrogé sur Instagram et vous avez tranché. Hein. Voilà ce que vous avez répondu en majorité. Vous pensez que Claire a donné ce laudanum à Walter pour qu'il se suicide en cas de besoin. J'aurais tendance à penser la même chose. Alors, je disais, Claire se tait face au soi-disant médecin, mais Brie, quant à elle, l'ouvre un peu. Cependant, je dirais qu'elle le fait de manière hyper intelligente. Ce n'est pas une explosion à la Fraser. Alors qu'on sent la rage qui boue en elle quand elle raconte son bizutage à Roger, hein, d'ailleurs, je disais, ça passe au premier plan, elle parle même pas de l'espèce de truc bizarre qu'elle a vécu dans le tunnel. Donc, bon, elle a le feu intérieur, mais lorsqu'elle arrive au pub où sont ses collègues, elle est d'un calme et d'une assurance qui contraste vraiment beaucoup avec ses sentiments intérieurs. Et elle n'attaque pas les hommes en frontal, hein, elle s'impose plutôt de manière, je dirais douce et ferme à la fois, hein, une main de fer dans un gant de velours. Elle dit à Rob, si vous me manquez encore une seule fois de respect, je vous fais tous virer, et puis ne m'appelle pas poulette. C'est clair. Fair enough, dit Rob Cameron. Je pense qu'il a compris la leçon. Dans cette scène, je trouve qu'on ressent le caractère de Claire en Brianna. Et cette scène au pub et l'accueil qui est réservé à une femme qui franchit les portes du pub n'est pas sans rappeler les regards qui étaient dirigés sur Claire et Brianna dans la saison 3, C'était dans l'épisode 4, Ce qui est oublié ou perdu, où on a Roger, Claire et Brianna qui cherchaient désespérément la trace de Jamie. Vous vous en souvenez très, très certainement. Près de 15 années séparent ces deux scènes. Et pourtant, on se rend compte que les mœurs n'ont pas beaucoup évolué. Hein. Enfin, n'avaient pas beaucoup évolué. Là, maintenant, on est quand même en 2023, donc on est 45 ans plus tard, de 80, ouais. Y a quand même un peu plus de femmes dans les pubs. Hein. Mais en tout cas, à l'époque, c'était les hommes au bar et les femmes au club de tricot. Au secours. mais passons à Jamie, parce que tout comme Brianna et Claire, Jamie prend de la hauteur. Dès le début, c'est lui qui a raison. Hein. Où une chèvre peut monter, un homme le peut aussi, alors surtout si c'est un Highlander comme Simon Fraser. Et puis tiens, je fais une toute petite parenthèse maintenant, parce que Simon Fraser, il y a beaucoup des Simons dans la famille de Jamie. Nous avons fait la connaissance de deux d'entre eux dans la saison 2. Le vieux renard, hein, le grand-père de Jamie, se prénomme Simon, et son jeune fils aussi, celui que nous avions vu partir aux côtés de Jamie pour les batailles de la rébellion jacobite. Mais le Simon Fraser dont il est question là, ce n'est pas le même. Il a combattu sur le sol américain dans l'armée britannique. C'est un cousin éloigné de Jamie et cet homme a réellement existé. Il a été militaire de carrière dans l'armée britannique et il est reconnu pour ses excellentes capacités de commandement. J'aurais tendance à dire à l'inverse du français ferme. Et Jamie ravale ses réflexions lorsque Fermoy compare les Highlanders à des chèvres. Il n'est pas le plus gradé, il respecte ses supérieurs. Et cette scène du début d'épisode où l'état-major est rassemblé nous rappelle forcément des scènes similaires avec les généraux autour du prince Charles dans la saison 2 et Jamie avec de bonnes idées mais impuissant à les imposer en fait. 30 ans plus tard, c'est toujours la même chose pour lui. Il sait qu'il a raison, mais il sait aussi que discuter ne sert à rien. Il a face à lui des gens très têtus et qui sont persuadés d'avoir raison. Jamie a un tempérament de meneur, hein, mais là, il est clairement aux ordres. Et c'est la discussion avec Claire et sa narration de la bataille de Singapour qui donne l'idée à Jamie de montrer plutôt que parler, car voir, c'est croire. Enfin, c'est ce qu'il pense. Et malheureusement, sa stratégie ne fonctionne pas mieux. Hein. Plus tard, lorsque les Britanniques sont aperçus dans le bout de la lorgnette, le général Sinclair tempête que cette situation n'ait pas été anticipée, profil bas de tous les officiers, et lorsque Jamie s'avance, ce n'est pas pour faire valoir qu'il avait prédit cette attaque et qu'il n'a pas été écouté, non, il s'avance pour proposer une solution d'évacuation par les eaux, beaucoup plus rapide que par les terres, et puis aussi beaucoup plus sûre, hein, puisqu'il ne risque pas de rencontrer les troupes britanniques. Et Diana Gabaldon dit que Jamie est un héros. Le moment est malvenu pour faire valoir qu'il avait raison. L'urgence est de se replier, de quitter le fort avant l'arrivée des troupes britanniques. Et ce qui est d'autant plus beau, c'est qu'il est dans l'action, en fait. Il a déjà un plan et il ne perd pas son temps en querelle politique. Jamie a déjà réquisitionné les barques nécessaires. Hop, next. On passe à la suite. Alors, entre nous, cette fuite de Ticonderoga ne reflète absolument pas le désordre de ce repli tel qu'il est décrit dans le livre. À l'écran, on a un peu le sentiment que tout se passe dans le calme et l'organisation, mais que nenni. Hein. C'était en réalité le chaos total, bah, comme on peut s'imaginer le départ précipité d'un régiment. Enfin, combien il y avait d'hommes à Fort Ticonderoga, je pense. Bah, d'ailleurs, le chiffre doit être dit, mais c'est entre 2000 et 3000, je ne sais plus. Bah beaucoup. Beaucoup plus que 1000, en tout cas. Et donc, pour relire un peu ce chaos, vous avez les chapitres 14 et 15 du tome 7, partie 2, le deuxième volume du tome 7. Et pour en savoir plus sur la vraie histoire de Ticonderoga, vous pouvez consulter un article qui synthétise les faits. Il a été rédigé par Brigitte. Il est sur mon site internet et je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Nombreux sont nos personnages qui ont été pris par surprise dans l'épisode, les Hunter et William, la surprise des Johnson, Brianna dans le tunnel, tous les résidents du fort, mais surtout l'état-major en fait, du fort. Et ceux qui sortent vainqueurs de ces petites batailles sont ceux qui parviennent à prendre de la hauteur ou du recul au sens littéral ou au sens moral du terme. Et je me dis que Yann n'échappe pas à ce constat et on passe à mon thème suivant. Yann revoit Émilie et fait la connaissance de Plus rapide des lézards. Et Yann non plus ne dit rien, hein. Il ne confronte pas Émilie sur ce qu'il est en train de constater et d'observer là sous ses yeux. On sent les interrogations dans son regard, mais il se tait. Alors retraçons le parcours de Yann dans l'épisode. On apprend d'abord de la bouche de Claire qu'il a lui aussi fini par rejoindre le fort de Ticonderoga avec les informations qu'il a pu glaner auprès des troupes indiennes. Yann a en quelque sorte un rôle d'émissaire ou d'éclaireur. Et puis ensuite, on le retrouve convoqué par l'aide de camp du général afin que celui-ci lui confie une mission. Et là, chose étonnante parce qu'on parle souvent de scènes coupées, mais pour une fois, il s'agit ici d'une scène rajoutée. Il fallait pouvoir expliquer que Yann tombe face à face avec Émilie et imaginez un peu qu'à la base, dans le script, dans le scénario, il n'y avait pas cette histoire de mission. Yann aurait dû tomber sur Émilie comme ça. Pouf. Avouez quand même que la coïncidence aurait été énorme. Et même si nous sommes habitués à ces coïncidences, et j'en ai parlé lors du précédent décryptage, c'est bien aussi quand on nous offre quelques ponts et quelques raisons de croire vraiment à l'histoire. Quoi qu'il en soit, Yann n'est pas franchement emballé à l'idée de se rendre dans son ancienne tribu. Son visage exprime clairement toutes les pensées qui l'assaillent à ce moment-là. Et comme Jamie dans l'épisode d'avant, l'armée continentale n'a que faire des raisons personnelles. C'est l'intérêt collectif qui prime. Et puisque Yann n'a pas le choix, il trouve Claire pour apaiser un peu son âme avant son départ et parler de ses inquiétudes quant à sa capacité à procréer. Le début de la scène remet en avant des éléments de l'épisode « L'heure du loup », c'est l'épisode 4 de la saison 6. Et rappelons que Yann a été chassé de la tribu Mohawk parce qu'il ne pouvait pas donner d'enfant à Émilie. Yann reparle aussi de cette croyance indienne qui dit que l'esprit de l'homme doit vaincre celui de la femme pour qu'il y ait un enfant. Je parlais de réalisation tout à l'heure et là encore, on peut noter le choix de Tracy Deer d'une mise en scène ultra simple pour cette conversation entre Claire et Yann. Juste deux acteurs avec de très bons dialogues, ils s'écoutent, se répondent, il y a une grande place laissée au jeu des acteurs et à l'expression de leurs émotions, pas de chichi. Et on voit Yann vraiment désespéré, hein. On sait que c'est une grosse blessure pour lui, elle est toujours à vif. On ne l'a pas beaucoup vu sourire ou exprimer de la joie depuis son retour au Ridge en deuxième partie de saison 5. Et cette discussion avec Claire nous expose très clairement pourquoi il était si mal. Il s'inquiète de ne jamais pouvoir donner d'enfant à une femme et du coup de ne jamais vraiment s'engager avec une femme. Un vrai déchirement pour lui, alors qu'on aimerait tellement le voir heureux. On a donc encore une très belle scène entre Claire et Yann, c'est déjà la deuxième scène cette saison, Claire endosse véritablement le rôle de la confidente, et je dirais même plus de la mère. C'est beau à voir. Et même si ici Yann se tourne vers elle pour ses éclairages médicaux, on ressent la force de leur affection mutuelle. Claire ne parle pas nommément de Faith, mais Yann est au courant puisque Jamie lui en avait parlé dans la saison 6. Tout ce passage sur la perte d'un enfant et la retenue mêlée de douleur que l'on perçoit dans l'attitude et les paroles de Claire serre un peu le cœur. C'est tellement tendre. Et Claire aussi ouvre les yeux de Yann en lui disant que les fausses couches sont malheureusement assez communes et que cela peut se produire pour n'importe qui sans qu'il y ait véritablement de cause ou de facteur à mettre en cause. Petit aparté, et j'ai le sourire au coin des lèvres, mais qui d'autre aurait aimé être témoin de la scène où Jamie explique les spermatozoïdes à petit Yann ? Eh ben, j'aurais aimé être là, moi, parce que je pense que ça aurait pu être une scène vraiment très très drôle. Bon, mais visiblement, la série n'a pas trop le temps pour mettre vraiment des choses très 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 drôles, même si on a des petites touches d'humour de temps en temps. Ça serait peut-être un peu trop, je sais pas. Je ferme la parenthèse. Mais voilà, toutes ces scènes de Yann nous amènent enfin au camp indien où il retrouve Émilie. Il découvre qu'elle a désormais un deuxième enfant, hein, puisqu'il avait découvert qu'elle avait eu un premier enfant ben, grâce à Kier Houghton hein, dans l'épisode 4 de la saison 6. Yann perçoit le bonheur d'Émilie et s'excuse de ne pas avoir pu lui donner d'enfant. Et nous, spectateurs, on observe le trouble d'Emily lorsqu'il lui dit ça. Et lorsque l'aîné de ses enfants arrive, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait qu'il est de sang mêlé. Ce petit acteur est beau comme un cœur, comme dirait Martine Hess. La couleur très claire de ses cheveux, la peau plus claire que celle de sa mère et de son père, le trouble d'Emily, tout nous porte à penser que cet enfant est le fils biologique de Yann. Alors c'est différent dans le livre, hein, où Diana laisse clairement planer le doute. C'est laissé à l'appréciation du lecteur. Voilà. J'adore le fait que Yann se mette au niveau de l'enfant pour lui parler. Quelle belle attitude de parent, je trouve. Voilà, quand on parle à son enfant, on se met à sa hauteur et on ne le toise pas de toute notre hauteur d'adulte. Ce petit échange entre Yann et le plus rapide des lézards éveille aussi le doute. Sa grand-mère lui a dit qu'il était le fils de son esprit et qu'il ne devait pas le dire à son père. Et là, je me demande si Kea Rotten est aveugle. Tout comme Frank voyait le père biologique de Brianna à chaque fois qu'il l'a regardé, pour moi, il est évident qu'il doit en être autant pour Kea Rotten. Yann rejoint donc la liste des hommes de la saga qui doivent faire confiance à d'autres hommes pour élever leur enfant. Le choix du prénom Yann James est très émouvant. Il n'est pas sans rappeler William James, qui nous a justement été remis en mémoire dans le précédent épisode. Le sourire irradie le visage de Yann. Ça fait plaisir à voir. Et John Bell, quel sourire! Mais il est capable de tels sourires aussi dans la vie. Enfin, c'est comme ça qu'on le connaît, en fait. Hein. Il rayonne. C'est un rayon de soleil, cet homme-là. Quel bonheur de le voir ainsi, dans la série aussi. Et la réplique du petit garçon, quand on lui dit Yann James, je l'aime bien. C'est tendre, c'est drôle, trop de mignonnerie. J'ai envie de faire ce petit signe-là, cœur, cœur, cœur. je continue. Pour finir l'arc de Yann dans l'épisode, eh bien, il recroise Rachel. Et de nouvelles perspectives s'ouvrent à Yann, puisqu'il sait qu'il peut avoir des enfants. Alors, il y a encore un peu de maladresse dans leurs échanges, un peu de gêne, mais aussi clairement l'envie de se revoir et des regards, voilà, enfin, on sent bien qu'il y a la naissance de petits sentiments, voilà, dirigés l'un vers l'autre. On va suivre tout ça. Et puisque je parle de Rachel, ça me fait une transition toute trouvée pour vous parler des mésaventures de William et des Hunter. Dans la première scène, alors qu'ils cheminent vers le nord, ils ont une discussion sur la violence. En tant que Quaker, Denzel et Rachel sont très ouvertement pacifistes. Ils s'en remettent au jugement de Dieu et sont pour la non-violence en toutes circonstances. William, de son côté, pense qu'un criminel doit mourir s'il s'est rendu coupable de crimes, notamment de meurtre. Il s'étonne que Denzel n'ait pas choisi une profession plus pacifique. En anglais, c'est « a most peaceable profession ». Et je pense qu'on peut retenir cette phrase. On apprend que Denzel a fait des études à Londres sous l'aile d'un célèbre chirurgien, le docteur John Hunter, qui est un de ses parents éloignés. Alors ça, c'est peut-être pas dit dans la série, je complète peut-être avec ce que je sais des livres. Mais à noter que ce personnage de John Hunter apparaît dans la saga plusieurs fois, je crois. Cette petite réplique qui offre du contexte sur la formation de Denzel nous éclaire justement sur son attitude face à Claire un peu plus tard dans l'épisode. Donc, excellente écriture quand c'est comme ça, c'est rien, c'est deux phrases, mais ça en explique plus sur la suite. Je ne détaillerai pas trop le passage chez les Johnson. Dans le livre, il pleut depuis des heures quand William et les Hunter tombent sur ce type. On s'explique mieux la motivation qu'ils ont alors à accepter un abri pour la nuit. Dans la série, ouais, bon. Passons aussi sur le délicieux ragoût de rat. Rien de n'en parler, franchement, j'ai envie de vomir. Mais d'un sens, heureusement que William a mangé ce ragoût, parce que sinon, ils se seraient tous fait trucider pendant leur sommeil. Pareil, la scène de l'attaque par les Johnson est sombre, rapide, confuse. J'aime pas vraiment cette scène. Même si je sens bien qu'elle était nécessaire, elle sert à montrer les vulnérabilités de William, et voilà, il tue pour la première fois. Comme on disait dans le précédent décryptage, il est jeune, il s'est construit une idée de la guerre, de la mort, une vision romantique. Il s'ouvre à Rachel en disant qu'il ne pensait pas qu'il tuerait en dehors du contexte de la guerre. Et là, c'est sa première vraie confrontation avec la violence, et c'est brutal. Et il pense que ce n'est pas pareil de tuer à la guerre. Et dans cette scène où il en parle à Rachel, on sent la bonne connexion entre ces deux personnages. Un peu plus tôt, William avait réussi à faire sourire Rachel hein, quand elle était sortie, elle aussi clairement dégoûtée par son assiette. Et là, c'est elle qui offre sa sagesse et son épaule à William. Elle ne l'accable pas pour son geste, malgré ses croyances quaker. Et d'ailleurs, on observe que Rachel fait un petit pas de côté hein, par rapport à ses croyances lorsqu'elle admet que William a été là pour les défendre et qu'il les a sans doute sauvés, elle et son frère. Les routes des Hunter et de William doivent se séparer. William offre les quelques pièces que Yann lui avait laissées, mais il garde le rosaire. On garde ça en tête. Il donne le nom de son oncle, hein, le duc de Pardlo, Al Grey, le frère de John, en cas de besoin. On verra si c'est utile. Et puis les Hunter font tous les deux la synthèse de cette rencontre. Donc Denzel affirme que William est probablement anglais, donc potentiellement dans le camp opposé. Et alors qu'ils sont à la croisée des chemins et qu'ils viennent d'être confrontés à la violence d'une manière très brutale, Denzel s'assure que Rachel ne veut pas faire machine arrière. Il culpabilise clairement hein, d'emmener sa sœur à la guerre. C'est un choix qu'il a fait pour lui, mais voilà, il lui laisse le choix de renoncer à le suivre. Mais avec le franc-parler qui la caractérise, Rachel lui certifie que Dieu lui a demandé de veiller sur son ego de frère. Voilà. Alors à suivre, les Hunter, très intéressant. Pour finir, il faut qu'on parle du tunnel et du Noclavi. Deux choses qui n'ont rien à voir en surface, mais qui se rassemblent, d'après moi, dans ce qu'ils ont de merveilleux ou de fantastique. D'abord, ouais, commençons par ça. Je voudrais déclarer tout mon respect à Brianna pour ne pas avoir paniqué ou hurlé quand elle s'est fait enfermer dans le tunnel. Alors ok, elle avait ses allumettes dans la poche. Mais quand même, quel sang-froid. Dans le livre, elle est dans le noir complet. Alors avouons quand même que pour des besoins cinématographiques, on peut accepter ce petit changement scénaristique. D'autant que la production a bien travaillé pour rendre l'atmosphère inquiétante de la situation. Brianna progresse méthodiquement dans ce tunnel, qui est réel, hein, ça n'a pas été recréé pour la série. Hein. C'est le tunnel qui est sous le barrage dans lequel ils ont tourné. Et j'ai revu Claire en train d'opérer mentalement Mandy. Vous vous souvenez dans cette scène où elle s'agite comme ça, elle fait bouger ses doigts, et Jamie est en train de prier. Et là, quand je vois Brianna réfléchir, se fermer les yeux, se remémorer le plan du tunnel, la même quoi. Droite ou gauche ? Petite opération mentale, droite. Elle m'impressionne, vraiment. Et puis arrive ce son qui lui bourdonne dans les oreilles. Et justement, hein, quand on regarde l'épisode avec les sous-titres, c'est noté, alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais whooshing. Et j'ai cherché la traduction et ça veut dire bourdonnement, en fait. Hein. Bruit, mais bourdonnement. Et donc, c'est comme ça qu'est décrit le bruit à l'approche des portails temporels, hein, des pierres, bourdonnement. Et puis, il y a aussi cet écran bleu, un peu distordu. Qu'est-ce que c'était que ce truc ? Alors, pas vraiment un portail temporel, parce que Brianna ressort bien dans son époque. Mais quoi, alors ? Alors, je suis lectrice, donc je savais très bien que... je me doutais vraiment que la série n'allait pas faire de changement avec ce tunnel et que Brianna n'allait pas atterrir dans une autre époque. Un non-lecteur, quand Brianna pousse la porte, le doute était permis, hein, où est-ce qu'elle est, etc. Donc, bon, bien joué, on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, on a le sentiment de quelque chose d'important à suivre. Et donc, autre événement bizarre dans la vie des Mackenzie, le cri strident de Mandy effrayé par le Noclavi. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'aurais vu tout rouge avec le grand frère qui prend un malin plaisir à faire peur à sa petite sœur en lui racontant des histoires qui font peur. Vous savez, exprès comme ça. Juste pour le plaisir d'avoir le pouvoir sur quelque chose. Bon, malgré tout, on croit ce qu'on veut, hein, mais il y a quand même définitivement quelqu'un qui rôde autour de la Libroque. La façon dont la fin du tour d'inspection de Roger est filmée ne laisse pas vraiment de doute. Hein. La caméra est placée comme ça dans les buissons, donc signifiant clairement que quelqu'un épie cette maison depuis le bois d'en face ou les petits bosquets d'en face. Ça fait un truc de plus à suivre de très très près. Avant de passer aux commentaires vocaux des addicts, je voulais vous faire un petit point des actualités Outlander Addict de ces prochaines semaines, car je vous assure que ça va être chargé. Alors tout d'abord, dès lundi, je vous retrouve en visio sur Patreon pour notre visio mensuelle entre addicts. Mais je vous en parle là parce que, nouvelle formule pour cette visio, j'ai décidé de consacrer la moitié de cette visio à Clanlands en Nouvelle-Zélande, le nouveau livre de Sam Yuan et Graham McTavish. Alors, pas vraiment book club, quoique, on peut dire que ça ressemble à ça, mais avec Brigitte, une addict officielle dont je vous ai parlé, c'est elle qui a écrit l'article sur Fort Ticonderoga, et tout un tas d'autres articles sur mon site internet, et notamment, c'est elle qui a fait cet énorme travail de traduction des scénarios de la saison 5 et de la saison 6. Les scénarios, hein, donc ça veut dire les scénarios complets, scènes coupées, annotations des auteurs, les petites notes de subtexte, tout. Mais un travail de folie. Si ça vous intéresse, vous trouvez ça sur mon site internet, ouais. Le travail qu'elle a fait mérite notre attention, vraiment. Mais je reviens à cette visio et à Clanlands 2. Avec Brigitte, nous avons commencé la lecture du livre et nous avons eu envie de vous partager notre lecture, nos ressentis. Et on en a discuté ensemble et on a décidé d'utiliser les visios mensuelles que je propose sur Patreon pour vous présenter un résumé des chapitres. Et puis nous parlerons toutes les deux des passages ou des extraits qui nous ont marqués. Et lors de cette discussion visio, j'en profiterai pour diffuser certains extraits de la série Men in Kilt 2 en Nouvelle-Zélande, extraits qui viseront à illustrer quelques passages du livre. Alors c'est en anglais, il n'y a pas de sous-titrage de la série, mais justement, Brigitte et moi, nous serons là pour expliquer éventuellement des petites choses qui ne seraient pas comprises. Alors ce n'est pas diffuser tout l'épisode, hein, pas ça du tout, mais vraiment appuyer le livre avec des images. Alors, les chapitres concernés pour notre première visio de lundi, c'est la préface du livre, le prologue et les chapitres 1 à 4 inclus. Il est toujours possible de nous rejoindre pour assister à ces visios. Rassurez-vous, devenir Patreon ne signifie pas que vous êtes engagé pour toute la vie. Si ce point particulier sur Clanlands 2 vous intéresse, eh bien très bien, rejoignez-nous pour les quelques semaines où on va traiter de ce livre. Si vous ne lisez pas l'anglais, ce sera une bonne manière de savoir tout ce qu'il y a dans le livre sans le lire. Autre actualité importante, mon point numéro 2, je serai en live sur Instagram avec Violaine ce mercredi 29 novembre à 21h pour vous donner tous les détails et les règles de notre jeu de Noël. On travaille dessus depuis le mois de septembre et je suis hyper enthousiaste de pouvoir enfin vous dévoiler tout ça. Nous allons vous accompagner toutes les deux jusqu'à Noël avec des publications, des visuels et surtout avec un jeu autour d'Outlander. Ce sera fun, ce sera quotidien, donc ouais, on est contente. Alors attention, le jeu se passera exclusivement sur Instagram et donc l'idéal pour ne rien manquer, parce que il faudra vraiment capter nos publications tous les jours. Le mieux pour rien manquer, ce sera de vous abonner à nos deux comptes et d'activer les notifications au moins pendant le mois de décembre. Bref, on vous dit tout ça mercredi, donc soyez présents. Si c'est possible, techniquement, j'essaierai de remettre notre live, le replay, sur YouTube. Je garantis pas, mais j'essaye. Et enfin, le mardi 5 décembre, nous avons notre Visio Book Club, et ça, c'est le vrai Book Club. Elle sera consacrée à la troisième partie du tome 8.1, hein, donc le premier volume du tome 8. Donc, c'est-à-dire les chapitres 47 à 67, ce sont des intrigues que nous verrons dans la deuxième partie de la saison 7. Et franchement, là encore, c'est une invitation si vous êtes fan des livres. Ces book clubs sont vraiment mes moments préférés entre addicts. On mène des échanges ultra intéressants et d'une grande profondeur. On obtient des éclaircissements et des angles de vue, des points de vue, des prismes qu'on n'avait pas du tout envisagés à titre personnel. On discute aussi de points qui ne sont pas très clairs dans la saga. Le bureau du Laird, D'ailleurs, j'en ai pas du tout parlé, mais il y a cette petite cache secrète dans le bureau. On parle des lettres cachées, mais là, je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler. Et donc, tout ça, ce sera le mardi 5 décembre. Et c'est le moment des commentaires vocaux des addicts. Pendant la diffusion des notes vocales, vous allez voir l'illustration de Violaine pour cet épisode. Une magnifique interprétation de ma Sentop. Sa Sentop aussi, du coup. Avec cette originalité qui caractérise certaines des œuvres de Violaine sur la thématique Outlander, je ne vous en dis pas plus, vous aurez la surprise à la fin de l'illustration. Je vous laisse découvrir tout ça. Nous revoilà ensemble et c'est parti pour l'illustration de Violaine. Vous allez voir un procédé un peu spécial aujourd'hui, puisque vous n'allez pas voir l'illustration prendre forme sous vos yeux et le coup de crayon de Violaine, mais elle m'a proposé quelque chose de plus, d'original, de différent. Vous allez voir l'illustration se dévoiler au fur et à mesure grâce à un procédé assez sympa que Violaine m'a proposé et que j'ai trouvé intéressant de vous soumettre ce soir pour ce décryptage. Je précise que cette partie est enregistrée quelques jours après le décryptage en lui-même, tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Ça a permis aux addicts officiels de me déposer leurs notes vocales. Si vous aussi, vous avez envie d'intervenir sur mes décryptages, bien ça se passe du côté de ma communauté Patreon. Et sans plus attendre, on écoute le commentaire de Laura. Les derniers seront les premiers. Donc à toi, Laura.
Hello les addicts, alors très bel épisode, hein. Il s'y passe vraiment beaucoup de choses. Alors moi comme d'habitude j'ai beaucoup aimé les scènes entre Brianna et Roger, puis avec leurs enfants aussi au 20e. Ces scènes de vie quotidienne là, à la Librock, j'adore l'ambiance, j'aime beaucoup le côté apaisant qui s'y dégage, même si Brianna vit un truc quand même pas évident au travail. Et puis le fait aussi qu'elle soit encore super nostalgique et triste vis-à-vis du manque de ses parents, hein, ce qui est logique. Mais j'adore quand même comme elle affronte la situation vis-à-vis de ses collègues. Là, j'aime le parallèle qui est fait aussi avec Claire à son époque. Tout ça pour dire que le sujet de la condition de la femme est toujours bien traité dans cette série. Et on voit que beaucoup de choses ont évolué, mais qu'il y a encore, en tout cas là au début des années 80, beaucoup de travail à faire. J'adore aussi encore redécouvrir les superbes paysages écossais, notamment là au barrage, avec ses panoramas somptueux. J'aime aussi le petit côté surnaturel là quand Brianna traverse le tunnel. Ça fait partie des choses qu'on aime dans la série. Donc j'attends aussi de voir s'il y a une suite vis-à-vis de ça. J'adore aussi la scène de Yann, hein, quand il découvre ce joli petit garçon là. En tant que téléspectatrice, je me pose vraiment beaucoup de questions. Est-ce que c'est son fils ou pas? Et si c'est le cas, en tout cas, j'aimerais bien quand même avoir une suite, parce que là, Yann, il n'a pas beaucoup de réactions vis-à-vis de ça.
Grand merci pour ton nouveau commentaire, Laura. Je me souviens de nos échanges dans la visio post-épisode où tu disais, quand Brianna traverse cette espèce d'écran bleuté, tu t'étais dit que peut-être qu'en ouvrant la porte, elle allait atterrir ailleurs. Enfin, je crois que c'est toi qui avais parlé de ça. Et t'as raison, la scène de Yann avec le plus rapide des lézards, ça laisse beaucoup de points de suspension et ça n'a pas été traité jusqu'à la fin, jusqu'à l'épisode 8, tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Donc, il y a quand même un gros suspense. Et comme tu n'es pas lectrice, on ne va pas en dire plus. Et maintenant, on écoute Isabelle. Toute première fois que l'on entend Isabelle dans ses commentaires vocaux.
Bonjour, c'est Isabelle pour ma première fois. Alors j'ai trouvé que dans cet épisode, il y avait beaucoup de sagesse et de filiation. Yann qui découvre son enfant, ce désir de paternité, il s'agenouille juste devant lui, il rentre dans son univers. Yann James, c'est juste magnifique. Au début de l'épisode, nous avons aussi Brie qui retrouve encore Jem et Mandy dans le cimetière où ils vont tout le temps. Ils jouent à cache-cache comme leur avait suggéré Claire avant qu'ils traversent les pierres. Quelle mémoire! Mandy voulait parler à grand-père. On a l'impression que Jem lui parle déjà. On se rappelle du lien très très spécial qui est entre Jem et Mandy puisqu'il l'entendait déjà parler quand elle était bébé. Et ça fait écho à Jamie qui un peu plus tôt avait révélé à Claire qu'il rêvait du futur. D'ailleurs, il l'avait vu baigner de lumière électrique. Et dans sa lettre, Claire indique qu'il rêve des enfants. On a vraiment un lien très, très particulier entre Jamie et Jen et peut-être Mandy, d'un écho du passé et aussi du futur. Brianna finalement s'adresse enfin à son tour à Jamie en ajoutant son propre caillou. Fondu au noir, Roger et moi, on a acheté la Libroque. On est en pleurs. Magnifique.
Grand merci Isabelle, on ressent l'émotion dans ta voix, dans tes dernières paroles notamment. Merci pour les belles mises en parallèle sur la filiation et la paternité et les liens très spéciaux qui unissent en fait nos personnages à travers les époques, les siècles, et puis aussi à travers les continents, hein, puisqu'ils ne sont pas du tout au même endroit. Ça me fait plaisir de t'accueillir Isabelle, n'hésite pas à renouveler l'expérience, super sympa. Maintenant on écoute Joanie.
Bonjour, c'est Joanie. À chaque épisode d'Outlander, j'aime que le titre soit évocateur un peu des thématiques qui arrivent à la plupart des personnages dans l'épisode. Puis cette fois-ci, dans le fond, ce que je remarque, c'est que plusieurs se font soit surprendre ou déstabiliser par quelque chose qui est inattendu. William et les Hunter, ben, par le couple, dont j'ai oublié le nom, mais qui sont, dans le fond, à la fois victimes et bourreaux, ce qui m'a un peu rappelé aussi un peu l'univers ou l'épisode des Beardsley, là, qui était assez sombre. J'ai quand même bien aimé, même si c'était... comme une parenthèse, mais j'ai aimé cette partie-là de l'histoire. Yann, par le fils de son esprit, sans s'y attendre, il est confronté à quelque chose dont il ne s'attendait pas. Jamie, un peu par aussi l'orgueil ou l'incompétence du commandant, ce qui m'a rappelé aussi quand il était auprès de Charles-Édouard Stuart, qui donnait son avis puis que c'était jamais pris en compte. Le fort, comme tel par les Anglais, même si c'était un peu attendu par Jamie. Walter, le patient de Claire qui a une névrise poplitée qui change tout. Ou Brianna par ses nouveaux employés. Les Mackenzie, le petit Jem, son professeur qui refuse le gaélique. Et aussi la menace d'une éclavie. Alors, tout est un peu inattendu pour tout le monde. Bonne semaine!
Merci Joanie pour ton commentaire. Les surprises pour tout le monde. Et j'aimerais juste rebondir sur quelque chose dont tu as parlé, puisque tu as utilisé des mots qui m'ont fait un petit peu rebondir. Tu parles de Yann James, le fils de l'esprit de Yann. Donc tu ne tranches pas ou tu ne prends pas position. Et je voulais dire que j'avais questionné les fans sur Instagram pour savoir s'ils pensaient que Yann James, le petit, était le fils biologique de Yann. Donc il fallait répondre par oui ou par non. Et je vous laisse découvrir la réponse des Instagrammeurs, en tout cas des gens qui ont pris la peine de voter. Et là, je crois qu'il n'y a pas photo, hein, grosse unanimité. Tout le monde, en tout cas en grande majorité, pense que c'est bel et bien le fils biologique de Yann. Donc on se rejoint un petit peu sur ce commentaire. Alors je pense qu'on va écouter. Attendez, je regarde la liste. Allez, Martine!
Bonsoir Aurélie et bonsoir à toutes et tous, c'est Martine S. Je commencerai donc par mon flop, qui est la fuite de Ticonderoga, peu réaliste de mon point de vue. Et je vais passer à mon coup de cœur, qui pour cet épisode, c'est Petit Yann. Petit Yann, confronté à ses peurs de n'être jamais père de famille et qui va retrouver espoir en se confiant à Auntie Claire. Claire, la colonne vertébrale de la famille, et je trouve que ce moment est particulièrement beau. C'est une relation presque filiale. Et puis l'armée va l'obliger à retourner dans son village indien. Et la rencontre avec Emily, elle est pleine de douceur, pleine d'amour. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de mots pour se comprendre. Et les rares dialogues, je trouve, sont d'une subtilité parfaite, ainsi que la mise en scène. Et quand ils réalisent que Lézard Rapide et son fils, il n'y a pas de mots pour décrire son émotion devant ce petit garçon qui, je le rappelle, est beau comme un cœur et puis plein d'empathie envers son père biologique, car le petit Yann James, je crois, a tout compris. Mon deuxième coup de cœur va vers Brie, émouvante, hein, devant le cairn et à l'ouverture des lettres, et courageuse, maîtresse d'elle-même dans le tunnel. On retrouve les qualités de ses parents dans cette jeune femme. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi les Hunter et William. Ça va être trop tard, j'arrête.
Ah, désolée Martine, encore une fois le gong final. Merci pour ce super commentaire. Tu reviens sur la scène entre Yann et Émilie et oui, tu le développes d'une superbe manière. Et j'en profite parce que cette scène où Yann découvre que Yann James existe et tous les possibles qui s'ouvrent à lui en même temps que ça, c'est la scène que vous avez préférée. J'en avais soumise 4 et c'est celle que vous avez retenue pour la plus grande majorité d'entre vous comme votre scène préférée de l'épisode. Et je pense que, oui, voilà, Martine, tu n'es pas la seule. Effectivement, elle est très marquante et elle marque un tournant pour ce personnage qu'on aime beaucoup, Yann, petit Yann. Bien, nous allons écouter maintenant Marianne.
Dans ce nouvel épisode, j'aime beaucoup cette narration qui nous transporte du passé au futur par le biais de la lettre que lit Brianna. Tout ce qui se passe au XXe siècle est formidablement bien joué par Sophie et Richard qui ont trouvé leur place dans cette série. Ce couple devient très attachant. Nous retrouvons aussi les paysages magnifiques et la musique écossaise. Dans cet épisode, Claire et Jimmy sont chacun pris par leurs obligations et sont obligés de se soumettre à leurs supérieurs, ce qui ne leur plaît pas du tout et laisse la place aux nouveaux arrivants. Denzel, Rachel, William, le dîner, la terrible nuit pour eux qui met William face à la mort. Il n'était pas prêt pour ça. Du temps est donné à Yann, son questionnement pour les enfants auprès de Claire et son arrivée au camp indien qui lui fait rencontrer Émilie et son fils Lézard Rapide. Ce petit acteur est merveilleux. Enfin, nous voici avec l'explication du titre quand Claire explique à Jamie la bataille de Singapour, cette forteresse réputée imprenable tout comme le fort Ticonderoga. Le « il faut le voir pour le croire » donne une idée à Jamie pour défendre le fort, mais hélas mal apprécié par le colonel Frémont. Cette scène est mon top, avec le final de l'épisode, Brie parlant à son père au cimetière, qui m'a fait penser à Claire à Culloden parlant à Jamie. Bonne soirée les addicts. Merci Aurélie.
Grand merci à toi Marianne. Merci pour le parallèle que tu soulèves entre Brianna parlant à Jamie sur le cairn. Et c'est vrai, dans la saison, c'est dans l'épisode final de la saison 2 où on voit Claire sur la pierre, la tombe du clan Fraser à Culloden. Ouais, bien vu. Merci Marianne pour ce beau parallèle que tu mets en avant. On passe à Michel.
Hello les addicts. Épisode dense, balayant bon nombre de scènes. Je retiendrai la tristesse de Brianna qui me fend le cœur au moment de l'ouverture de la lettre et sa tendresse devant le cairn construit par Jem à la mémoire de son grand-père. Ses parents n'en finissent pas de lui manquer. C'est comme un caillou dans sa chaussure qui fait mal et qui l'empêche d'être pleinement heureuse. Chaque lettre ouverte les éloigne un peu plus d'elle. Puis vient la réunion d'état-major. Comme il l'avait été lors de la bataille de Culloden, Jamie, pourtant fin tacticien, a été une nouvelle fois confronté à l'arrogance d'un général imbu de sa personne. Son respect de la hiérarchie militaire l'a empêché de dire au général Sinclair qu'il avait raison concernant l'emplacement stratégique de la colline de Sugarloaf et de ne pas souligner l'incompétence de Fernois. Bravo Jamie, tu es un homme d'honneur. Venons-en à Yann et Émilie. On y voit une Émilie heureuse de revoir Yann et gênée de lui présenter son fils aîné, un beau petit blondinet qui lui avoue, lors de leur tête-à-tête, être l'enfant de son esprit. Quelle révélation! Et pourtant, pas d'effusion de joie véritable pour Yann, qui fait la connaissance de son fils, lui qui est rongé par la culpabilité de n'avoir pas donné d'enfant à Émilie. Un beau cadeau de cette dernière devant la tristesse de Yann. Je reste sur ma faim. Cela aurait mérité un plus long développement de la part des scénaristes, mais c'est un joli moment. C'est fini pour ce soir. À bientôt les addicts.
Merci Michel. Et toi aussi, tu pointes du doigt cette scène entre Yann et Yann James, son fils, le fils de son esprit ou son fils biologique, c'est selon. Trop court, oui, trop court. Et c'est vrai qu'on en attend plus et j'espère que cette trame et cette intrigue va revenir d'ici à la fin de la saison 7 ou peut-être, j'espère, en saison 8. Alors, je regarde l'illustration. Est-ce que vous avez deviné Qu'est-ce que Violaine a illustré, la scène de l'épisode qu'elle a illustré? Je ne sais pas si c'est encore très très net pour vous. Si vous avez trouvé, mettez-le dans le chat. Et pendant ce temps-là, nous allons écouter Sylvaine.
Bonjour Aurélie, bonjour les addicts. Alors, en ce qui concerne cet épisode 5 intitulé Singapour, pour moi, C'est un épisode très dense, dont le montage est vraiment d'une grande virtuosité. Nous sommes ainsi ballottés selon un rythme très soutenu et des liens subtils, entre différents lieux et personnages, entre deux époques, et non moins de 4 axes narratifs principaux. Rien que ça. Nous retrouvons évidemment avec beaucoup de plaisir un bon nombre de scènes en écho. La stratégie désastreuse de Ticonderoga rappelle celle de Culloden, malgré tous les efforts de Jimmy. Même regard sexiste des hommes sur les capacités des femmes, Claire, chirurgienne de guerre, Brie, ingénieure, en dépit des 200 ans d'écart. La scène du cimetière de la Librorte n'est pas sans nous rappeler celle de Claire sur la tombe de Jimmy. Celle où les Hunters évoquent de manière morale l'usage de la violence, trouve en écho dans celle du meurtre que commet William. L'auberge rouge où sont hébergés Denzel, Rachel et William est une autre sinistre maison de l'horreur, en saison 5. La très belle scène entre Yann et son fils est à rapprocher de celle entre Roger et Jem. Quel beau tête-à-tête, père-fils. Certains dialogues sont aussi émouvants, avec une mention spéciale pour le couple Roger et Brie. Vraiment, j'ai adoré les différentes scènes et la qualité de leur interprétation. Bref, un épisode qui demeure très proche du roman. J'ai donc été très heureuse de retrouver les scènes qui m'avaient touchée lors de ma lecture, et ce, même si le temps qui leur est imparti m'a semblé bien trop court.
Quel œil, Sylvaine, et quel esprit de synthèse. Merci pour l'ensemble des parallèles que tu soulèves et que tu as trouvé, que tu as soulevé. Malgré le temps très court qui t'est imparti à toi aussi, tu réussis toujours à faire cette magnifique synthèse. Donc vraiment, merci pour tout ça. C'est une très, très grande richesse. J'adore. On va écouter Nadine.
Bonjour tout le monde. Pour cet épisode, j'aimerais mettre en avant les enfants. Mandy, Jem et le petit Ian James. Je trouve que le casting est ici encore très bien réussi. Leurs frimous sont vraiment à croquer. Et même s'ils n'ont pas énormément de dialogue, leurs expressions et mimiques en disent long sur leur caractère et leur personnalité. J'espère vraiment les retrouver dans la suite de la saison. En même temps, on n'a pas beaucoup de doutes concernant Jem, étant donné l'épilogue de l'épisode 8. Merci encore les enfants. Et bisous les addicts.
Alors ça, Nadine, c'est vraiment chouette. Parler des enfants, c'est vrai qu'on a tendance à les oublier un peu et à ne parler que de leur jolie petite bouille. Et pourtant, ouais, c'est bien plus que ça. Ils ont un rôle si important. Et tu parles de Jem, du petit Jem, de Jamie. Ouais, évidemment qu'on en aura plus. Et moi, j'ai hâte, comme toi, de savoir comment tout ça va être traité dans la deuxième partie de la saison 7. Merci Nadine. Il nous reste à écouter Antonia.
Bonsoir Aurélie, bonsoir les addicts, c'est Antonia. Je vais vous parler de petit Yann que nous connaissons depuis la saison 3, sa naissance à la Librock. Puis, une quinzaine d'années après, il a rejoint son oncle bien-aimé Jamie à Édimbourg. C'est un jeune homme plein de ferveur et d'enthousiasme et qui cumule gaffe sur gaffe. Dans la saison 4, nous le voyons aux prises de la perversité de Gillis, puis quelques épisodes plus loin, son rôle prend de l'ampleur quand il devient un homme de valeur pour la liberté de Roger et reste chez les Mauques. Saison 5, il revient à Fraser Ridge, malheureux, changé, refermé sur lui-même et ne peut en parler. Saison 6, chez les Cherokees, il revoit son ancien ami Mohawk et là, il peut enfin se confier à Jamie et y retrouver la paix. Puis, tout comme son oncle, il est un fin stratège pour le délivrer des hommes de Brown. Dans la saison 7, son rôle, il le joue à merveille. Il se l'est approprié à 100%. La scène la plus belle, c'est quand il revient chez les Mohawks, qu'il revoit Emily. Les dialogues sont superbes. Il fait la connaissance de cet enfant métis qui parle sa langue et qui lui dit qu'il est son âme. Émilie lui permet de le baptiser, ce sera Yann, Jamie. Ces trois personnages sont magnifiques.
Moi, comme je regrette que tu n'aies pas pu finir. Antonia, ouais, bravo et merci. Quand je vous dis que ces commentaires des addicts complètent vraiment de belle manière le décryptage, la mise en lumière que tu fais sur Yann, j'adore. Donc juste merci Antonia. Un grand merci à vous toutes pour ces notes vocales. Merci Violaine pour ce dessin avec apparition du fantôme. C'est ta petite touche, ta marque de fabrique, le truc que j'adore, le truc que les autres ne font pas. Donc c'est vraiment super. Et en plus sur C'est très touchant, le fait que tu l'aies fait sur cette scène-là. C'est... ouais. Merci les addicts pour vos commentaires pleins de passion. Je passe à ma conclusion. Jimmy et Claire sont à la guerre, ça c'est du déjà vu. Mais cette fois-ci, ils sont du côté des vainqueurs. Claire le sait, elle a les dates. Reste à savoir comment va se jouer leur petite histoire à tous les deux. J'ai envie de dire aussi que les nouveaux personnages sont tout de même bien plus avenants que les Christie de la saison 6. On a envie de s'attacher à eux et de connaître la suite de leur histoire. Pour moi, la véritable héroïne de l'épisode, c'est Brianna. C'est son arc narratif qui porte l'intrigue vers l'avant. C'est sa force à laquelle j'ai envie de m'identifier. Et l'interprétation de Sophie Skelton m'émeut vraiment de plus en plus. Je m'identifie plus facilement à ce personnage qu'avant. Vraiment, j'adore voir les Mackenzie au XXe siècle, c'est rafraîchissant. Je l'ai dit, Claire et Jimmy à la guerre, on connaît. Et pour les Mac, tout ou presque est nouveau. Les travaux à Lily Brock, le job de Brianna, le fait de voir des parents élever leurs enfants. Et puis, leurs interactions sont belles, ils sont complices. Il y a un peu de tension érotique, Roger se montre joueur. Mais il sait aussi comment parler à Brianna pour la soutenir. Il est lui aussi en connexion complète avec Claire et Jimmy. Parce que tout nous ramène encore et toujours à Claire et Jimmy, c'est Outlander, et ça ne changera pas. Et c'est pour ça que je suis addict, et que je le serai probablement encore longtemps. Je clôture ce décryptage en accueillant Brigitte M, Marina, Isabelle P, Véronique et Nathalie. Elles ont rejoint la communauté des addicts officiels depuis le dernier décryptage, bienvenue à vous. Et je tiens à remercier mes chers addicts passionnément à la folie, et je commence par Aline et Lisiane, toutes nouvelles addicts passionnément, elles aussi. Et puis Jacinthe, Johanny, Muriel, Martine P, Monique, Séverine, Martine S, Fanny, Sylvaine, Jessica, Nadine, Sandrine, Brigitte, Patricia, Gérard, Claudie, Claire, Karine, Patrice, Agnès, Martine B, Marie-Laure, Nicole, Michel, Béatrice, Maïté, Stéphanie, Sylvie, José, Josiane, Martine T, Georgette, Isabelle P et Fatma. Un énorme merci à vous tous. Rendez-vous lundi pour la visio et mercredi sur Instagram avec Pitchmany. Prochain décryptage dans 3 semaines, le 15 décembre. Prenez soin de vous.